puisqu'on est sur les psaumes. Et là, je vous invite à lire avec moi le psaume numéro 25. Psaume de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois point couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent point à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Cela sera confondu, qui sont infidèles sans cause. Ceux-là, oui, seront confondus. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme, sauve-moi, que je ne sois point confondu quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Un très beau psaume qui pourrait avoir plusieurs approches de réflexion, de méditation. Mais je voudrais mettre là en lumière deux aspects. Celui de la détresse du pécheur et celui de la bonté de Dieu. Sous une approche qu'on peut retrouver dans le texte qui est assez particulier. Parce qu'il nous est bien évoqué la bonté du Seigneur, la grandeur de Dieu, et ça, on l'a lu, ça nous est sauté aux yeux. On a bien vu, effectivement, quelques aspects de la détresse du pécheur, on aura l'occasion de voir ça, mais c'est amusant parce que dans la construction du texte, on dirait que cette détresse et cette grandeur de Dieu sont mis comme face à face. Comme si c'était des miroirs, mais inversés. L'un révèle la bonté de Dieu et de l'autre côté, cela réveille la misère. Il y a la misère qui est là, qui pointe, qui est insinuée. Et de l'autre côté, il y a la réponse dans la grandeur et dans la bonté de Dieu. Ça commence par cette expression au verset 22. « Mon Dieu, en toi, je me confie. » Et le versant, « Que je ne sois point couvert de honte. D'un côté, il y a la confiance. Et plusieurs fois, on le voit, tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu de mon espérance, tu es mon sauveur. Il y a cette confiance. Et il est bon d'ailleurs de commencer et de finir par cette confiance. C'est au verset 2, il dit « Mon Dieu, je me confie en toi ». Il termine d'ailleurs à la fin du verset, c'est « Quand je mets en toi mon espérance ». Il y a cette confiance. Et c'est vrai que nous pouvons faire confiance à Dieu. Je ne sais pas sur qui, en quoi vous confiez et qui dans votre esprit vous avez comme illustration de confiance. On peut avoir des amis de confiance. J'espère que vous avez confiance dans vos conjoints. Mais même si votre ami, c'est le meilleur des amis, le meilleur des confidents, il y en a un qui est encore plus en qui on peut plus avoir confiance que tout ça, c'est Dieu lui-même. Il est d'une confiance parfaite. Il ne nous trahit pas. Et c'est pourtant l'autre côté, ce versant-là. Que je ne sois pas honteux, que je ne sois pas couvert de honte. Il va dire pourtant, et c'est pour ça que je parle de la détresse du pécheur. Plus tard, il va dire oui. Ceux qui sont infidèles, eux vont connaître la confusion, eux vont être honteux, eux vont être humiliés. Et c'est terrible quand on vit dans ce monde sans Dieu. Parce qu'on sait ce que c'est que la honte. On sait ce que c'est que cette frustration. On sait ce que c'est que d'être trompé. On sait ce que c'est que de se sentir sale. On sait ce que c'est que de sentir un regard d'être qui nous écrase, qui nous salit, qui nous humilie, qui nous rabaisse. Ce sentiment d'être trahi. Comme toutes ces fois où on a eu des copains, des copines. Ah, c'était grand sourire devant. Et puis par quelques paroles, on apprend que c'est les mêmes qui nous plantent des bons couteaux dans le dos. Et on se sent comme trahi, honteux, sali. La honte ne fait plus partie de la vie d'un enfant de Dieu. Il ne sait plus ce que c'est. Il ne sait plus ce que c'est. Parce qu'il y a trouvé dans le Seigneur une force, une autorité, une confiance qui a banni de sa vie la honte. Il se peut, malgré tout, que par nos choix, par nos décisions, certains cherchent à se moquer de nous. Il se peut que par nos prises de position, on nous regarde avec un regard dédaigneux, méprisant. Et ça fout, ça nous met en temps un peu la honte, si c'est en réunion de famille, si c'est au travail. Mais ce n'est pas la même honte. Oui, on se sent peut-être humilié par certaines personnes, mais à long terme. La honte ne repose pas sur notre tête, mais repose sur leur tête à eux. Ceux qui se moquaient de nous, ceux qui nous humiliaient, ceux qui cherchaient à nous écraser. Laissez le temps faire. C'est eux qui viendront vous voir pour chercher conseil, pour chercher un réconfort. C'est auprès de vous qu'ils viendront chercher une réponse à leurs questions. Eux-mêmes qui hier vous humiliaient ou qui cherchaient à vous jeter l'opprobre et la honte seront ceux qui, eux, subiront cette honte et cette opprobre qu'ils voulaient faire tomber sur vous. L'Éternel, verset 4, « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Il y a dans la personne de la parole de Dieu, dans le Seigneur, dans sa parole, il y a de l'intelligence, il y a de l'instruction. Et il y a cet homme, David, qui a cette humilité de demander à être instruit. Il a cette humilité de reconnaître qu'il a besoin d'apprendre. Alors là, c'est un homme qui connaît Dieu. Alors, il a cette humilité de dire « Instruis-moi ». Mais reconnaissons que c'est une autre détresse dans ce monde que de vivre dans l'ignorance. Tant d'hommes, tant de femmes sur cette terre se font avoir par ignorance. C'est encore jeudi, hein, mamie ? C'est jeudi que je suis allé chez toi ?
Oui.
Je dis encore qu'une femme était devant nous à nous exposer ses problèmes, ne comprenant pas pourquoi il y avait tant toutes ces manifestations diaboliques dans sa vie. Et au bout de quelques minutes, d'ouvrir les yeux et de réaliser que c'est à cause d'elle, de toutes ces pratiques, qu'elle s'est fait avoir et qu'elle était elle-même l'instrument par lequel les mauvais esprits passaient. Elle tombait des nues, moi. Mais comment j'ai pu faire ça? Une surprise, une ignorance totale des choses spirituelles, et soudainement, c'est la catastrophe. Alors qu'elle croyait que la source était ailleurs, qu'elle était victime de quelque chose, elle était en fait l'instrument majeur de son propre problème. L'ignorance tue. L'ignorance est mauvaise. L'ignorance n'est utile à personne. Et c'est pourtant la réalité de la détresse du pécheur. Le pécheur est dans l'ignorance. Il ne sait même pas ce qui le rend malheureux, c'est son propre péché. Le péché dans lequel il croit trouver du bonheur. Il court après des futilités dans lesquelles il croit pouvoir se fortifier, s'élever, se glorifier, alors que c'est ce poison-là qui va le détruire dans quelques années. L'ignorance. À suivre, à se laisser instruire par ce monde qui le trompe. Et pourtant, il croit être érudit et tout connaître, alors qu'il s'aveugle lui-même. C'est terrible, la détresse du pécheur, parce que la plupart du temps, il en est complètement ignorant. Il ne réalise même pas qu'il a besoin d'être instruit. Non, il se moque même des choses de Dieu. Pas besoin de Dieu. Moi, vous savez, j'ai fait des études scientifiques, alors vous savez. Ah. Mais ton âme, le vide dans ton cœur, ça vient d'où? Oh, ça, vous savez. Personne ne le sait. C'est terrible, l'ignorance. C'est terrible. Il y a encore là comme cette comparaison, verset 6 et verset 7. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Oui, la miséricorde et la bonté de Dieu sont sans limite. C'est le sens de cette phrase que tu as dit, qu'elles sont éternelles, c'est à la fois sans limite d'espace et de temps. Nous, ça nous dépasse, parce que dans tout ce à quoi on pense, il y a forcément une limite. Nous sommes des gens là tellement finis qu'on met toujours des limites à quelque chose. D'ailleurs, on le dit, hein, j'ai de la patience, hein, mais ma patience a des limites. Ah, je suis bon, hein, mais il ne faut pas me marcher quand même sur les pieds. Hein. Trop bon, vous connaissez l'expression populaire. Alors nous, on a des limites à la bonté. On a des limites à la miséricorde. Mais les limites de Dieu sont éternelles. Éternelles. Souviens-toi de ta miséricorde, mais surtout, verset 7, ne te souviens pas de mes fautes. Eh oui, il y a la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, qui sont de l'ordre de l'infini, de l'éternité. Et il y a la misère de l'homme, mais ne te souviens pas de mes fautes de jeunesse, je t'en supplie. C'est terrible, la misère du pécheur. Parce que le temps ne répare jamais les dégâts passés. Jamais. Et c'est terrible, la détresse du pécheur. Parce qu'il a beau faire ce qu'il veut, il sait qu'il a péché hier, avant-hier, et les années d'après. À l'image de cette situation où cette femme avait été prise en flagrant délit d'adultère, on l'a jetée aux pieds de Jésus, espérant qu'il soit d'accord avec les religieux de l'époque, qu'il fallait la lapider, et voilà que Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Pas de problème, jetez la première pierre, mais que c'est celui qui n'ait jamais péché qui le fasse. Et là, le texte nous dit que, à partir des plus vieux, les uns et les autres se sont retirés. Et oui, plus on vieillit, plus on pêche. Les plus anciens d'entre nous sont les plus grands pécheurs. Et oui, il faut le reconnaître. Ne te souviens pas, Seigneur, de mes fautes de jeunesse. Je t'en supplie. Et c'est terrible la détresse du pécheur. Parce que la détresse du pécheur est que même s'il se moque de Dieu, il a la conscience qui travaille. Il sait. Même s'il étouffe sa conscience, il sait qu'il a mal fait, il sait tous ses agissements misérables, il sait que jour après jour, il en rajoute des lignes à son casier judiciaire spirituel. Il sait les mauvaises paroles qu'il a encore prononcées aujourd'hui dans sa voiture, il sait les mauvais regards qu'il a prononcés, il sait les mauvais états d'esprit qu'il a eu dans son travail ou dans sa maison, il sait les paroles injurieuses qu'il a prononcées, il sait, et tout ça, ça s'ajoute. Ça s'ajoute depuis des années et des années. Mais qui pourrait résoudre ce problème. David ne connaissait pas l'œuvre de Jésus. Nous la connaissons. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Plus aucune. Alléluia. Plus aucune. La Bible nous dit que Christ à la croix a pris nos péchés et les a envoyés au fond de la mer, là où plus personne ne peut aller les chercher. Il n'y a plus aucune condamnation. Même quand le diable veut nous rappeler une faute passée, c'est foutu, c'est un mensonge, c'est une illusion, c'est une accusation en toc. Parce que devant le Seigneur Jésus, le jour où nous avons demandé pardon sincèrement pour nos péchés, devant le Seigneur, le motif même de l'accusation n'existe plus. Amen. Ce n'est même pas que c'est... La faute n'existe plus. Le motif même de l'accusation n'existe plus. Ce n'est pas seulement une amende qui a été réglée, c'est une amende qui n'existe plus. L'objet même de qui avait causé l'amende n'existe pas. Il n'y a même pas à se dire, oui, mais est-ce que c'est entièrement pardonné? Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment nettoyé? Il n'y a même pas cette question à se poser, parce que le motif même de la condamnation a été détruit, anéanti. Plus aucun motif de condamnation. Et c'est cela la vraie liberté. Ne te souviens plus de mes erreurs de jeunesse. Mais ça, c'est la détresse du pécheur. De celui qui n'a pas encore réalisé que Christ avait tout accompli, tout nettoyé, tout blanchi. La Bible nous dit que nous sommes blancs par Jésus-Christ. À condition que, effectivement, nous ayons confessé notre péché et nous l'ayons délaissé, évidemment. Mais quand c'est réglé avec le Seigneur, c'est réglé, il ne s'en souviendra pas. Et jamais il ne permettra à quiconque de le faire. D'ailleurs, il y a même un proverbe qui dit que celui qui rappelle une faute divise les amis. Et nous devons faire attention aussi de ne pas faire l'œuvre du diable en rappelant les fautes du passé. Ne rappelons pas les fautes du passé. Si quelqu'un s'est repenti, si quelqu'un a demandé pardon, nous n'avons pas à faire l'œuvre du diable en le lui rappelant, en lui disant « Mais tu te rappelles ?» Le jour où tu as fait ça, tu te rappelles la fois où ça, c'est l'œuvre diabolique de faire ça. Nous sommes appelés à être des enfants de Dieu et à encourager chacun d'entre nous à regarder l'œuvre qui est devant nous. Amen. Ne nous accusons pas les uns les autres. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. À cause de ta bonté, ô Éternel. Nous aurons l'occasion de voir ça tout à l'heure avec le verset 11. Éternel, verset 8, est bon et droit. Il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Alléluia. Un verset qui nous dit que ceux qui serrent la parole de l'Éternel dans son cœur trouvent dans son cœur des chemins tout tracés. Ce qui fait de l'Éternel, c'est qu'il se trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et c'est vrai que c'est magnifique de réaliser que quand on confie notre vie au Seigneur, il est celui qui trace un chemin devant nous. Il est celui qui nous oriente. Il n'est pas celui qui nous fait comme le GPS, qui nous montre tout l'itinéraire jusqu'à le fond de notre vie. Non, ça c'est vrai, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Je vous dis plutôt qu'il nous éclaire, ta parole est une lampe à mes pieds. Et c'est vrai que les lampes à l'époque, ça brûlait, c'était juste une petite flamèche. Hein, ça éclairait juste le temps de faire un pas ou deux. C'était pas les gros spots ou les grands lampadaires d'aujourd'hui. Hein. Mais en tout cas, ils nous orientent, ils nous permettent de nous diriger, de nous orienter. Alors que une des autres détresses du pécheur, c'est qu'il est perdu. Il ne sait pas où il va. Il montre aux pécheurs la voie. Pourquoi il montre aux pécheurs la voie? Parce que les pécheurs ne savent pas où aller. Et c'est là que la bonté de Dieu. C'est que ceux qui ne sont perdus, ceux qui sont égarés, ceux qui ne savent pas où aller, ceux qui cherchent des repères, alors le Seigneur est pour eux leur voie, il est pour eux leur sentier, il est pour eux leur orientation, il est pour eux leur GPS. Lorsque Jésus voyait la foule qui le suivait, il dit lui qu'il était ému de compassion. Parce que lorsqu'il voyait les foules, Il voyait comme un troupeau qui était sans berger. Et Jésus ne regardait pas ça avec dédain, avec mépris. Jamais il n'y a ça dans le regard de Dieu. Lorsqu'il voit quelqu'un qui est dans la détresse, mais avec de l'émotion, avec de la tristesse. Parce que c'est terrible d'être dans ce monde. Et la plupart d'entre nous, nous étions comme ça. Nous étions dans ce monde, mais nous ne savions même pas où nous allions. Aucun sens. Nous essayons de vivre en fonction de ce qui nous plaisait, de ce qui ne nous plaisait pas, de ce qu'on avait envie, de ce qu'on n'avait pas envie. Et puis après, il y a les contraintes de la vie qui font qu'on est un peu obligé d'aller dans ce sens. Mais en fait, il n'y avait aucun sens, aucune cohérence. Et quand on s'arrêtait un instant pour dire « Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?»« Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Quel est le sens de ma vie ?» Il y avait un silence qui nous glaçait. Un malaise qui nous prenait, parce que nous étions conscients que nous n'avions aucun sens à la vie, aucune direction, rien de concret, rien de fiable, rien qui nous donnait véritablement une motivation à continuer à être comme ça. Le Seigneur, quand il voit cette détresse du pécheur, ne le réprime pas, il ne le méprise pas. Il veut au contraire le conduire, le rassurer. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers les pâturages, vers les courants d'eau. Il prend soin de moi. Il me conduit là où je trouverai du pâturage vert, du rafraîchissement. Et nous sommes appelés à nous laisser conduire par le Seigneur. C'est le même. Dans le même psaume. Celui qui nous conduit vers les pâturages, celui qui nous conduit vers les courants d'eau, c'est le même qui nous conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce qu'il nous est dit en plein milieu du psaume. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre... Mais attends, mais ton berger, toi, il te conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est bizarre, ton berger, là. Mais oui, ça peut arriver aussi, mes bien-aimés. D'emprunter des chemins... Comprenez l'expression mortelle. Des chemins qui nous font même perdre nos propres repères. Des chemins où on n'a plus la joie, on n'a plus la paix. Des chemins où on se dit, mais Seigneur, t'es où ? Seigneur, mais c'est quoi cette galère ? Seigneur, je suis en train de mourir. Je ressens même plus ta présence. Dites-vous bien que le berger est toujours là. Peut-être que vous l'avez perdu de vue, mais lui ne vous a pas perdu de vue, mes bien-aimés. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, si vous avez mis votre confiance dans le Seigneur, alors vous êtes sans crainte. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et celui qui vous a conduit vers les verts pâturages en un temps, celui qui vous a conduit vers les courants d'eau, est également celui qui vous aidera à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est la grande différence entre ceux qui sont dans la détresse du péché et qui sont sans aucun sens, et ceux qui connaissent la bonté du Seigneur. Amen. C'est à cause de ton nom, ô Éternel. C'est à cause de ton nom. Au verset 11, David va dire que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Il y a là la nature de Dieu et la nature du pécheur. Quand il est dit, c'est à cause de ton nom, regarde-moi selon ta miséricorde, considère-moi selon ta bonté, David est en train de dire, si tu me juges selon ta nature, alors je suis sans crainte. Parce que la nature de Dieu, c'est d'être bon, miséricordieux. La nature de Dieu est l'amour, c'est sa nature. En fait, Dieu ne peut pas faire autrement que d'agir avec miséricorde. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous pouvons réclamer la grâce de Dieu sur notre vie, non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous avons fait des choses, non pas parce que nous voulons acheter, non pas parce qu'on va essayer de le séduire pour incliner son cœur à ce qu'il soit favorable à notre égard, mais c'est dans sa nature. On a déjà tous eu autour de nous des gens qu'on a trouvés super gentils, qui nous ont surpris par leur gentillesse ou par leur générosité. On dit, il est extraordinaire celui-là. Vraiment, cette personne, elle nous bluffait tellement, on sentait que c'était naturel. Dieu est miséricorde. Et quand il fait miséricorde, quand il use de bonté, quand il use de fidélité, quand il use de grâce à notre égard, de gentillesse, j'espère que ce mot est souvent à une connotation un peu misérable, mais je trouve qu'il y a... Les mots sont trop petits pour définir la bonté de Dieu, mais essayez de mettre des plus à tous ces mots-là, parce que c'est dans sa nature. Dieu ne peut pas être autrement, c'est dans sa nature, il est miséricorde. Et le psalmiste le dit, souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Il ne s'appuie pas sur ses mérites, il ne s'appuie pas parce qu'il croit ou il ne croit pas, mais parce qu'il sait que ce Dieu est un Dieu de miséricorde, il est miséricorde. Alors il sait qu'il peut lui réclamer son jugement par rapport à sa nature à lui. Ça, c'est la nature de Dieu. Notre nature, elle est complètement opposée. Tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Et là aussi, le mot est petit. C'est plus que nos iniquités, nos péchés sont grands. Nous sommes par nature des gens pécheurs. Nous sommes par nature des gens pécheurs. Et ça peut arriver d'ailleurs que dans nos vies, nous soyons même surpris de nous-mêmes. Oh, on est bien plus surpris du caractère des autres, c'est vrai. Oh, il est chrétien, il réagit comme ça encore, lui. Ah ben dis donc, si c'est ça être chrétien. Mais avouons-le aussi que ça nous est arrivé d'être un peu confus et honteux de nous-mêmes. Et de se dire, mais attends, mais comment c'est possible que je réagisse ainsi? Comment c'est possible que j'ai encore ces sentiments qui me viennent avec tant de vigueur au-dedans de moi? Comment ça se fait qu'il y ait encore cette colère? Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait ces mots que j'employais plus mais qui commencent à revenir? Comment c'est possible que ces pensées adultères avec lesquelles je croyais que c'était fini, ça me revient comme ça? Comment c'est possible que j'ai encore des réactions aussi misérables? C'est possible parce que nous sommes encore et toujours des pécheurs par nature. La nature de Dieu, c'est d'être rempli de sainteté, d'amour, de bonté, de miséricorde. Notre nature à nous, même si le Seigneur a changé notre cœur, il n'a pas changé notre nature. Et c'est pourquoi nous devons toujours être humbles. C'est pourquoi, et nous le verrons tout à l'heure, nous devons sans cesse nous remettre en cause et demander pardon à Dieu dès que nous sentons cette fragilité du péché nous regagner dans nos cœurs, dans nos mentalités. Personne n'est exclu de cela. Vous pouvez être peut-être quelqu'un de très spirituel. Vous pouvez passer des heures dans la prière, ça ne changera pas votre nature. Notre nature, on s'en libérera, comme dit l'apôtre Paul. On va quitter cette tente le jour où nous mourrons. Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes attachés à notre corps. Et notre corps est voué au péché. Il est attaché au péché. Le péché est en nous. Alors, ne laissons pas non plus le diable nous accuser. Oui, nous sommes encore des pécheurs. Et Dieu ne nous a jamais demandé d'être sans péché. Il nous a demandé de ne point nous laisser manipuler par le péché. C'est deux choses différentes. La séduction fait partie du monde. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas nous laisser berner par la séduction. Et la colère fait encore partie de notre nature. Et le Seigneur nous demande de vaincre la colère. Etc. etc. Et pour cela, il nous a donné une arme précieuse, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes encore des hommes et des femmes faillibles. Mais nous ne devons pas nous laisser envahir par cette fragilité. Et surtout, ne laissons pas le diable nous accuser. Parce que dès que l'on commence à nous remettre en cause, à dire « mais c'est pas possible, je suis pas né de nouveau, le Seigneur n'a pas agi en moi, je suis encore insatisfait, je suis pas un bon chrétien, je suis pas une bonne chrétienne », alors vous laissez votre flanc être fouetté par le diable lui-même. Et là, vous perdez des forces, parce que vous rentrez dans le processus de l'incrédulité. L'œuvre que Dieu a fait en vous, elle est parfaite. Elle a juste besoin d'être rendue de plus en plus forte, c'est tout. Mais ne nous étons pas non plus que dans notre nature, il y a encore le péché. Dites-vous bien que Christ est mort pour tous les péchés. Pardonne mes iniquités, car elle est grande. C'est vrai, c'est notre nature. Mais n'oublions pas que Jésus est mort pour tous nos péchés, tous. Que personne ne puisse se dire, oui, mais ce péché, il est trop grand, il est trop grave. Ah oui, mais moi, c'est pas pareil. Christ est mort pour tous tes péchés. Amen. Alors, ne nous laissons pas embobiner par l'ennemi de notre âme. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? C'est lui qui montre la voie qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur. Et l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Vous voyez là, il y a trois aspects. L'Éternel lui montre la voie, un chemin, une direction. Ok ? Son âme est dans le repos, dans le bonheur, et il connaît l'amitié de Dieu. Ok ? Ça, c'est la face de Dieu. Voyons maintenant la détresse du pécheur. Verset 15. Il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Ça, c'est le fruit du péché. Le royaume de Dieu, c'est le chemin, c'est la voie, c'est l'amitié, c'est le bonheur. Et l'autre côté, la détresse, le fruit du péché, c'est le piège, la solitude, c'est l'abandon, c'est l'angoisse. Mais pourquoi continuer à vivre sa vie sans Dieu? Pourquoi encore se laisser être kidnappé, prisonnier, comme pris au filet du péché? Parce que c'est un vrai piège le monde dans lequel on vit. C'est un vrai piège que de vivre dans le péché. On a l'impression qu'on est libre, mais le boulet est de plus en plus lourd. Ah, je fais ce que je veux! Mais on a de plus en plus de mal à faire ce que l'on veut réellement. On dit des oui parce qu'on n'arrive plus à dire non. Mais ce n'est pas une liberté que de toujours dire oui. La liberté, c'est savoir dire non. Et de savoir prendre des positions. Ce n'est pas de toujours se laisser aller. Quelle misère! Que ces pièges! Ces pièges qui font que même la nuit, nos pensées sont obscurcies, prisonnières, saisies. On veut se concentrer et on n'y arrive plus. On veut aller dans une direction, mais on a tellement menti avec les uns, avec les autres, qu'on est pris à notre propre piège. Regarde-moi, je suis abandonné, malheureux. Mais c'est bien la réalité de la plupart des hommes et des femmes pécheurs de ce monde. Dans leur cœur, ils sont abandonnés, ils sont malheureux. Dehors, c'est tout sourire, on fait la fête, on s'éclate, on rigole. Et on a plein d'amis. Mais seulement sur Internet. Parce que le cœur est seul. Le cœur est abandonné. On n'a pas d'amis, c'est faux. On a juste des amis quand tout va bien, quand l'argent est là, quand la drogue est là, quand on peut donner. Une fois qu'on ne peut plus donner, ils sont où nos amis? Ils sont où vos amis d'hier? Dites-moi. Ceux qui vous ont dit, pour la vie, tu peux compter sur moi. Dites-moi, vous avez combien d'amis comme ça aujourd'hui? Dites-moi, peut-être. Peut-être que vous avez encore un ou deux, c'est possible. Mais guère plus, honnêtement. L'homme sans Dieu est un homme abandonné. Abandonné même de ses propres valeurs, de ses propres amis, de ses propres considérations. Et les angoisses de mon cœur augmentent, mais bien sûr. Ce n'est pas qu'on le veuille, mais c'est une conséquence. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, c'est comme ça. C'est pas une punition, mais c'est un effet. Si vous mettez votre main dans un bain d'acide, votre main va être cramée, brûlée, bouffée par l'acide. C'est comme ça, c'est normal. C'est là que c'est terrible l'ignorance. Parce que tant vont dans cette direction de la mort, du péché, de l'indifférence à l'égard de Dieu, croyant trouver amour, bonheur, liberté, joie, extase, succès. Et se retrouve dans des états d'angoisse. L'angoisse de mon cœur augmente. À l'image de tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont empris dans la drogue, dans l'alcool, croyant trouver une solution en buvant un peu plus, en prenant quelques drogues, je vais mieux après. Mais plus ils en prennent et plus ces temps d'euphorie, de tranquillité sont de plus en plus courts. Et après, on court après ces choses-là pour fuir les angoisses. Mais plus on en prend et plus les angoisses grandissent. Mais c'est véritablement ça le salaire du péché. Et il n'y a pas besoin de prendre de la drogue et des alcools pour connaître ce processus de mort intérieure. C'est la réalité de tant d'hommes, tant de femmes. Alors qu'à côté de ça, le Seigneur nous propose de nous conduire sur la voie. Il nous propose et nous offre le repos de notre cœur. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vos âmes trouveront du repos. Mais c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les institutions, ce n'est pas les religions. Ce n'est pas en courant sur Internet ou en lisant les bouquins. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas d'attitude. Ce n'est pas le yoga ou le je sais pas trop quoi. C'est Jésus qui donne le repos. C'est à lui qu'il faut venir. L'amitié de l'Éternel. Et pour ceux qui le créent, une vraie amitié, une relation, une intimité, un cœur à cœur. Ne cherchez pas une moralité, ne cherchez pas une religion. Mais cherchez à avoir Jésus comme ami. C'est Jésus lui-même qui le dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Je vous appelle ami si vous faites ce que je vous commande. Non pas que c'est un tyran ou un despote, mais parce que ses conseils nous rapproche de lui, tout simplement. Si on accepte de l'écouter et de lui faire confiance, alors la confiance s'installe, l'amitié grandit. Le plus beau trésor qu'un homme, qu'une femme peut découvrir sur cette terre, c'est d'établir cette relation d'amitié avec Dieu. Amen.
Amen.
De savoir que quand il prie, qu'il soit dans la joie ou dans les pleurs, il aura cet ami fidèle et tendre avec lui. Dans la maladie ou dans la bonne santé, il aura cet ami comme confident. Que dans les jours de détresse ou de tranquillité, il saura trouver auprès de Dieu celui auprès de qui il peut parler, s'épancher. Peut-être que l'Éternel ne répondra pas toujours, mais son cœur de miséricorde, de bonté, communiquera à notre cœur son amour, sa consolation, son soutien, sa compréhension. Et il n'y a pas d'ami plus proche que vous ne pourrez trouver sur cette terre que Jésus lui-même. Oui, vous ne verrez pas Jésus de vos propres yeux, mais vous pouvez être au contact de son cœur. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. La fin de ce psaume est une magnifique prière. Vois ma misère, verset 18. Vois ma misère, vois ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme, et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ces détresses. Il est important également dans nos prières de toujours garder ces trois axes. L'axe de la repentance. Pardonne-moi tous mes péchés. Nous sommes par nature des pécheurs. Par nature, nous blessons le cœur du Père. Par nature, nous avons sûrement aujourd'hui eu des attitudes, des situations, peut-être des états de cœur qui ont pu blesser. L'essentiel n'est pas de s'apitoyer, mais tout simplement de demander pardon à Dieu. D'être capable de s'examiner soi-même. C'est ce que nous demande la parole de Dieu d'ailleurs. Examinez-vous vous-même afin de ne point être sous le jugement. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, il veut juste qu'il se repente et qu'il change de conduite. Et c'est tellement important lorsque nous prions. Avoir un moment de stand-by, d'évaluation de notre journée, de notre temps, et d'être capable sincèrement de dire pardon, Seigneur, cette situation-là, je sais qu'elle n'est pas à ta gloire. Seigneur, donne-moi les forces de changer cette situation. Pardonne-moi d'avoir encore ces pensées. Pardonne-moi pour ces paroles. Pardonne-moi pour ces gestes. Pardonne-moi pour ces regards. Pardonne-moi pour ces situations où je me suis laissé tromper, abuser. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas cherché ta volonté. De demander de l'aide, c'est le deuxième point, le deuxième axe de la prière. De demander de l'aide. Seigneur, garde mon âme et sauve-moi, aide-moi, Seigneur. Nous sommes faibles par nature, nous ne sommes pas capables. Arrêtons de nous appuyer sur nos attitudes, notre connaissance, je ne sais pas trop quoi. Nous sommes par nature tellement faillis, tellement faibles, tellement incapables. Oh, je ne dis pas que vous êtes des incapables. Mais nous sommes limités. Et c'est tellement bon de confier toutes ces choses aussi. Seigneur, aide-moi. Vous allez voir que les choses vont changer. Le jour où vous allez commencer à ne plus vous appuyer sur vous-même et que vous direz, Seigneur, aide-moi. Je dois faire ça, mais j'ai besoin de ta grâce. Je crois être capable de faire ça, mais Seigneur, j'aimerais quand même que tu m'aides un peu. Parce que là, moi, je peux peut-être faire une chose avec ma main, mais c'est toi qui mets du succès dans les entreprises. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Le troisième axe dans nos prières, c'est de mettre notre confiance et notre espérance en Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce qui arrivera demain. Mais je veux te faire confiance, Seigneur. Je t'ai demandé, je t'ai prié pour cela. Oui, c'est vrai. J'aimerais tellement que ça se passe comme ça. Mais Seigneur, fais comme tu veux. Je te fais confiance. Seigneur, je veux pas bagarrer avec toi. Je comprends pas la situation, mais Seigneur, je te fais confiance. La repentance, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ce que tu veux. Amen. Et le Seigneur est celui qui, en finalité, et c'est la dernière phrase de ce psaume, qui nous délivrera, qui vous délivrera, qui nous délivrera de toutes nos détresses. Amen. Amen.